accepter. Si on a ces possibilités-là, alors on peut toujours dire qu'on n'en veut pas, mais est-ce que quelque part on n'est pas poussé justement par le désir de vivre, par le désir de connaître et par l'ensemble de la société à vouloir, où est alors la liberté? Et donc, si je cible plus particulièrement la génétique en vue d'envisager l'eugénisme, actuellement, il y a très peu de maladies monogéniques, c'est-à-dire où si on a le gène, on a la maladie. Il y en a très peu, il y a la polykystose hépatorénale, et il y a une maladie qui sert souvent de modèle, qui est peut-être moins connue, c'est la chorée de Huntington. La chorée de Huntington, c'est une maladie qui se développe vers l'âge de 40 ans à peu près, de manière assez dramatique, avec des gros troubles psychiatriques, neurologiques, et la transmission est autosomique dominante, c'est-à-dire que si un des parents a eu la pathologie, l'enfant a 50% de probabilité de l'avoir. Donc, et soit on a le gène et on va avoir la maladie, soit on n'a pas le gène et on ne va pas avoir la maladie. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'il faut faire le diagnostic? Il y a effectivement beaucoup de choses qui sont faites pour accompagner ces personnes, pour savoir s'il faut faire le diagnostic, parce que si ce diagnostic donne la certitude, c'est-à-dire si on n'a pas le gène, ouf, on n'est pas malade, c'est bien, parce qu'on a quand même vu son parent ou peut-être son grand-parent décédé dans ces conditions-là. Mais si c'est positif et qu'on se dit, ben voilà, 40 ans, je vais en l'espace d'un ou deux ans mourir et qu'il n'y a aucune prévention, rien à faire, c'est quand même assez terrible de vivre avec ça. Donc, est-ce qu'il faut savoir? Ensuite, il y a les gènes de prédisposition. C'est l'exemple du gène BRCA qui est une prédisposition au cancer du sein. Donc, on sait que si une personne a ce gène-là, il y a un risque très majoré d'avoir un cancer du sein, mais pas une certitude. Et du coup, certaines propositions, où c'est une possibilité, c'est au préalable enlever les seins, éventuellement enlever les ovaires parce que le système hormonal stimule le cancer, mais on n'a pas non plus la certitude d'avoir la maladie. Donc, est-ce qu'il faut passer par une chirurgie lourde et une chirurgie qui n'est pas simple aussi sur le plan de l'image corporelle, ou est-ce qu'il faut tout simplement laisser faire les choses? Donc, faut-il savoir si on a ce diagnostic, s'il n'y a pas de prévention, s'il n'y a pas de traitement. Donc, c'est toute une problématique qu'il faut, ou pour laquelle il n'y a pas de réponse. C'est un peu le problème de l'éthique, c'est qu'il n'y a jamais de bonne réponse. Parce que s'il y avait une bonne réponse, ben, on ne se poserait pas la question. Mais du coup, quand on a un gène de prédisposition et qu'on ne sait pas si on va l'avoir, que faut-il en faire? Et on va quand même vers un schéma où on aura tous, en tout cas les plus jeunes, la cartographie génétique. Et on aura tous les facteurs de risque ou les gènes de prédisposition à risque, mais sans aucune certitude. Qu'en faire alors? Est-ce que ce n'est pas terriblement angoissant de savoir qu'on aura peut-être cela? Et après, comment en disposer? Peut-être qu'un jour, votre assureur vous demandera la carte génétique et en fonction de la carte génétique, fixera la prime d'assurance. Donc, vous pouvez toujours dire, ben, c'est confidentiel, je ne vous la donne pas, mais à ce moment-là, il ne vous assurera pas. Donc, je veux dire, c'est aussi, c'est pas anodin d'avoir autant d'informations qui peuvent être utilisées ou pas, mais dont finalement, en tout cas au vu des connaissances actuelles, on ne sait pas en faire grand-chose. De plus, dans notre génome, alors je ne sais plus le pourcentage exact, mais c'est à peu près, à mon avis, entre 20 et 30% des gènes qui codent pour des protéines. C'est des exons. Tout le reste. 3%, pardon, donc j'ai surestimé. Donc il n'y a que 3% de nos gènes qui codent et qui vont s'exprimer. Tout le reste ne va pas s'exprimer et dont on ne sait pas non plus quel est le rôle dans le système du génome. Donc énormément de connaissances, donc pour l'instant, on ne sait pas trop quoi faire. Alors j'ai mis aussi dans la visée diagnostique la pharmacogénétique qui est plus à visée diagnostique qui est utilisée actuellement. Le test de paternité qui n'est pas autorisé en France, sauf décision juridique, la criminologie, la justice, tout simplement pour être un peu exhaustif sur la visée diagnostique. Et il y a aussi la génétique, à visée thérapeutique. Actuellement, les premiers patients ont été traités par ce qu'on appelle les CAR-T-cells, c'est-à-dire que dans une forme de leucémie très, très particulière, on peut prélever des lymphocytes de la personne, les manipuler génétiquement et les réinjecter pour qu'elles aillent tuer les cellules cancéreuses. Et c'est quelque chose qui marche remarquablement bien. Donc vraiment un traitement, une manipulation génétique à visée thérapeutique. J'ai vu l'autre jour un patient jeune hein, qui est guéri, alors qu'avant ce type de traitement, son pronostic n'était même pas de 2 ans. Hein, donc on a vraiment des choses assez extraordinaires. Et donc il y a beaucoup, beaucoup d'études en cours. Actuellement, il y a peu d'études ou peu de possibilités vraiment concluantes et efficaces en thérapeutique. Et bien sûr, il y a tout ce qu'on voit partout de ce qui peut se faire in vitro avec le ciseau génétique, le CRISPR-Cas9. Alors, ce n'est pas que in vitro, puisque vous avez tous vu la naissance de ces enfants en Chine dont l'embryon a été manipulé pour enlever le gène qui permettrait l'infection au VIH. C'est pour leur dire autrement, c'est-à-dire que quand on est infecté par le virus du VIH, ça passe par une protéine sur la membrane des lymphocytes et ces embryons étaient manipulés pour enlever cette protéine pour que les enfants ne puissent pas être infectés si jamais la situation se présentait. Et donc, c'est même des jumeaux et qui ont donc été manipulés au stade embryonnaire, puis inséminé chez une femme qui a donc donné naissance à 2 enfants qui apparemment sont en bonne santé. Donc on est vraiment clairement dans la réparation. Alors ça a été beaucoup beaucoup critiqué, d'ailleurs je crois qu'en Chine ils ont même été inculpés ou risque d'inculpation puisqu'ils ont fait ça sans aucune autorisation. Mais comme quoi on fait quand même des choses, des manipulations génétiques, et là en l'occurrence sur des embryons, donc c'est dans toutes les cellules de ces enfants et donc de l'adulte, et ce sera aussi transmis à la descendance. Donc une modification, qu'est-ce que ça peut donner? Donc le transhumanisme dans ce cas-là est vraiment pour réparer, modifier et augmenter l'homme, donc l'améliorer puisqu'il ne peut pas être sujet à une infection à VIH. En sachant, alors moi je ne suis pas du tout généticienne, donc, on m'a aussi bien expliqué quand même que quand le génome est un organisme vivant à part entière et qui est en équilibre. Donc ce n'est pas comme quelque chose de fixe, donc si on coupe quelque chose à un bout, tout le reste reste identique. Non, le génome est quelque chose qui est en équilibre, donc si on change quelque chose à un endroit, il risque d'y avoir des rééquilibrations ailleurs. D'ailleurs, c'est un des problèmes actuels sur des cellules vivantes, puisque quand on modifie le génome à un endroit donné, la cellule peut complètement modifier son fonctionnement, voire mourir. Donc là, visiblement, ils ont réussi à faire ces enfants. Et du coup, la question qui se pose clairement, c'est l'eugénisme. Donc, j'ai mis actuellement ce qui est possible, ce qu'on a le droit de faire en France, c'est qu'on peut éliminer des embryons après diagnostic préimplantatoire. Alors, il y a très, très peu de maladies où c'est autorisé. Par exemple, la chorée de Huntington, dont je parlais tout à l'heure, c'est possible. Hein, c'est-à-dire que quand le grand-parent de l'enfant à naître est porteur du gène, on fait une insémination in vitro, c'est-à-dire qu'on crée l'embryon in vitro ou des embryons, et ensuite, on regarde ceux qui sont porteurs du gène. Et ceux qui sont porteurs du gène, donc on sait que si jamais on les réinsémine chez une femme et qu'ils vont avoir des enfants, l'enfant à l'âge adulte va être porteur de la maladie, c'est sûr. Donc dans ces cas-là, on enlève les embryons qui sont porteurs du gène. En fait, on enlève plus globalement les embryons porteurs de gènes du grand-parent malade, et on prend ceux qui ne le sont pas et on les insémine chez la femme pour donner naissance à un enfant. C'est le diagnostic préimplantatoire. Donc il y a très peu de maladies pour lesquelles c'est autorisé, et de toute façon, comme je disais tout à l'heure, il y a peu de maladies monogéniques, donc il y a peu de possibilités. Donc ça, c'est possible. Et l'autre possibilité après diagnostic génétique, c'est l'interruption de grossesse quand il y a un enfant trisomique. Hein, c'est-à-dire qu'on le fait classiquement par amniocentèse, quand il y a des facteurs à l'échographie ou à la prise de sang qui font penser que l'enfant peut avoir une trisomie, on fait faire une amniocentèse. Et puis maintenant, depuis, je dirais bien 3-4 ans, donc ça se fait aussi de plus en plus, on peut faire le diagnostic génétique de l'embryon sur sang maternel. c'est-à-dire une prise de sang très tôt pendant la grossesse, hein, dès la deuxième, troisième semaine, on peut avoir tout le génome du futur enfant à naître. Donc actuellement, ce qui est autorisé, c'est effectivement faire le diagnostic de trisomie et du coup proposer l'interruption de grossesse ou l'avortement à la femme si elle le souhaite. Donc juste pour dire, actuellement, il n'y a plus que très peu d'enfants trisomiques qui naissent parce que ensuite on laisse le choix au couple parental et normalement c'est un choix libre, mais effectivement actuellement pratiquement tous les parents optent vers l'interruption de grossesse puisqu'il y a quand même quelque part une pression sociétale de ne pas donner naissance à un enfant trisomique. Donc normalement on est libre, en pratique, qu'en est-il de cette pression? Et juste, donc sur sang maternel, on ne peut faire que le diagnostic de trisomie. Mais on peut aussi imaginer que comme on a ce génome de l'enfant très tôt, ou de l'embryon très tôt, on peut très bien voir, ben, déterminer par exemple le sexe. Si le sexe ne convient pas, on est encore dans les délais de l'IVG. Hein, donc, en fait, le futur enfant à naître, une fois qu'il est conçu, on a déjà son génome. Donc, que va-t-on en faire? Quelles sont les possibilités? Donc, ça, c'est la réalité. Ensuite, j'ai mis aussi le tourisme procréatif, parce que je vous ai mis ce qu'on a en France, mais effectivement, le tourisme procréatif existe. Relativement cadré, même si les législations et les possibilités sont différentes dans les pays européens, mais beaucoup plus libres dans les pays, par exemple, d'Extrême-Orient en particulier. Donc, j'ai mis vers un eugénisme parce que c'est vrai, le fait d'éliminer des embryons, on peut dire que c'est de l'eugénisme, mais c'est quand même plus un eugénisme négatif, c'est-à-dire ça se fait du coup très peu et on enlève des futures personnes qui sont soit malades, soit handicapées graves. Mais là où nous emmène le transhumanisme, c'est vraiment l'eugénisme libéral. L'eugénisme libéral où finalement l'enfant pourrait être le produit génétique, génétiquement modifié, choisi par ses parents. Du coup, donc toujours dans un idéal d'améliorer l'humain, peut-être aussi dans une certaine utopie, on peut penser que finalement on peut déterminer toutes les caractéristiques du futur enfant en coupant le gène comme finalement comme un puzzle, avec donc le choix des parents sur leur enfant de déterminer comme ils le souhaitent en fonction de leurs préférences. Finalement, ils sont libres de le faire, mais du coup, quelle sera la liberté de l'enfant? Actuellement, l'enfant n'est pas libre non plus, mais le choix est aléatoire. Là, ce sera le choix des parents, et du coup, l'enfant pourra soit rendre des comptes d'avoir fait certaines choses, ou alors au contraire de ne pas l'avoir fait. Donc, il y a clairement aussi là un conflit de liberté des parents, celle de l'enfant, mais du coup, je répète, tout ce qu'on fait chez l'embryon sera transmis aux générations futures. C'est dans les cellules germinales. Et du coup, on peut aussi imaginer l'eugénisme positif. Donc là, ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on peut faire un choix d'une ou plusieurs caractéristiques finalement obligatoires chez l'enfant, indispensables pour qu'on ait le droit de vivre. Donc là, on est vraiment dans l'utopie, et j'espère qu'on n'y sera jamais, mais quand on lit certains ouvrages ou certains films, hein, on peut imaginer finalement un endroit où tout le monde sera pareil et il faudra certaines conditions pour avoir le droit de vivre. Et du coup, je m'interroge, est-ce que c'est encore l'idéal du transhumanisme, en particulier d'égalité? Alors c'est sûr, si tout le monde est pareil, on peut parler d'égalité, mais est-ce que c'est encore une réelle justice? Est-ce que chacun peut finalement exister comme il est? Alors justice au sens d'être finalement comme on est et d'avoir la même possibilité que les autres. Et du coup, donc c'était un peu le transhumanisme. En regardant un petit peu la littérature, que ce soit scientifique ou philosophique, les avis sont vraiment partagés entre ceux qui disent, ben oui, c'est ça qu'on va faire demain, et d'autres qui disent, ce sera jamais possible. Hein, donc, où en sommes-nous? D'où l'importance aussi de la réflexion éthique, puisque clairement, comme j'ai dit tout à l'heure, l'éthique, elle est toujours quand il y a une question qui se pose pour laquelle on n'a pas la réponse, pour laquelle il n'y a pas de bonne réponse. J'ai un collègue qui dit que l'éthique naît toujours d'un malaise. C'est parce qu'on ne sait pas comment faire qu'on va se poser la question sur ce qu'il convient de faire. Et un des objectifs en particulier de la réflexion éthique, d'une prise de décision ou d'un choix, c'est la visée du bien. C'est-à-dire la décision qu'on va prendre ou ce qu'on va faire devra apporter du bien à la personne en particulier, mais plus largement à tous. Mais du coup, comment savoir ce qu'est le bien ? Hein, si on prend le transhumanisme, quel est le bien de l'enfant ? Est-ce qu'il faut choisir les gènes ? Est-ce qu'il faut le laisser faire de manière aléatoire ? Est-ce que le fait de choisir des gènes ne fait pas qu'on prenne des risques sur autre chose ? Donc, comment faire ce bien ? Si on est dans l'intelligence artificielle, par exemple, un outil d'aide à la décision, quel est le bien qu'on veut faire ? Et quel est encore le bien, en particulier dans la relation soignante, quand il y a un tiers technologique ? Comment finalement faire que l'autre en face de moi, en particulier dans la relation soignante, on fasse le bien ? Et du coup, déjà se poser cette question-là, et ensuite, comment faire un choix de ce qui est raisonnable de faire ? Comment faire quelque chose qui est le bien sans, en parallèle, prendre des risques majeurs ? Et qu'est-ce qui est raisonnable de faire ? Et d'ailleurs, qui peut dire ce qui est raisonnable de faire ? Et du coup, qu'est-ce qui est aussi juste de faire ? Parce que ce qu'on fait chez une personne, il faut que ce soit juste pour elle, mais que ce soit aussi quelque part juste pour les autres, avec une juste répartition. Et il faut toujours penser que ce bien qu'on veut faire pour l'autre, qu'on veut faire pour tous les autres, qui est finalement quelque chose qui nous oblige aussi, c'est aussi vrai pour les générations futures. Il y a un philosophe qui s'appelle Hans Jonas, ou Jonas en français, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le principe responsabilité ». Ça a été écrit dans la deuxième partie du XXe siècle. Je ne pourrais pas vous donner de date plus précise, où il dit clairement qu'avec ces nouvelles possibilités, il faut réinventer une éthique qui nous donne des outils pour essayer de voir ce qu'il est raisonnable de faire, ce qu'il convient de faire. Et il dit très clairement qu'on en est responsable, et du coup aussi pour les générations futures. En particulier, beaucoup de mouvements écologiques se basent sur Hans Jonas, mais en fait, au départ, c'est plus dans le domaine médical où il dit, ben voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, ça va aussi imputer les générations futures. Et du coup, quand on fait une réflexion éthique, on parle toujours de l'autonomie de la personne. Chacun peut décider pour lui-même comme il l'entend. Hein, on est des personnes autonomes. Tout notre système législatif appuie sur cette autonomie de la personne de décider pour elle-même. Et du coup, il y a quand même des questions qui se posent par rapport à cette autonomie, en particulier devant les nouvelles technologies, en particulier aussi devant le transhumanisme et ses possibilités qui sont peut-être idéales, utopiques, peut-être la réalité. Sommes-nous vraiment libres ? Hein, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pratiquement plus d'enfants trisomiques qui naissent, c'est le choix des parents. C'est vrai que chaque couple parental doit et peut choisir, et c'est une décision terrible. Mais il y a aussi une terrible pression de la société. Hein, si vous êtes quelque part... Je peux donner un exemple. Avant-hier, j'ai vu un patient qui a une pathologie assez grave qui devrait être opéré. Et il ne veut pas être opéré. Et il dit, ben non, moi je ne veux pas, je préfère rester comme ça. Bon, il a tout un argument. Mais il y a une énorme pression de tous les professionnels qui disent, mais il faut vous opérer. Et lui, il dit, non, je ne veux pas. Mais c'est terrible. Dans notre monde actuel, un patient qui refuse, alors en ayant vraiment l'information, en ayant vraiment compris les choses, ben, il y a une pression énorme pour accepter. Donc, on est vraiment... Est-ce qu'on peut encore être libre ? Ou est-ce que cette technologie ne nous oblige pas et ne nous contraint pas ? Quand on prend, effectivement... même l'outil technologique, moi je pense que les nouveaux outils technologiques, les objets connectés peuvent nous aider à pratiquer une médecine plus adaptée aussi, peut-être à distance, mais il faudra aussi savoir encore faire, oser encore faire sans, et oser l'appliquer à la situation. C'est pas parce qu'on a l'outil qu'il faudra pouvoir le faire. Et je crois qu'il y a une réelle réflexion à mener aussi de la place de cet outil dans la relation. Et du coup, n'y a-t-il pas une limite à notre autonomie, en particulier là où commence l'autonomie de l'autre, en l'occurrence de l'enfant à naître. Un deuxième élément important dans la réflexion éthique, c'est de ne pas faire le mal. Mais dans toutes ces nouvelles technologies, comment mesurer toutes les conséquences, tous les risques, et qui peut le mesurer et qui osera le mesurer? Et très souvent, on ne sait pas, on peut faire que des hypothèses. Comme je disais, les manipulations, c'est aussi pour les générations à venir. Et si on va limiter ce qu'on fait, qui est-ce qui doit le faire? Le chercheur? Celui qui va utiliser la technique? Le politique? C'est très difficile. La personne qui a inventé la bombe atomique n'avait jamais imaginé qu'elle pouvait un jour devenir un système destructeur. C'était un résultat d'une recherche de labo. Donc, où doit-on fixer les limites? C'est une énorme responsabilité. Et la dernière, le dernier axe pour l'éthique, c'est la justice. Parce que finalement, si on a des nouveaux outils et des nouvelles possibilités, est-ce que tous vont pouvoir en bénéficier? Tous, déjà, dans nos sociétés riches, mais aussi dans toutes les sociétés, dans tous les pays. Comment être juste? Et du coup, il y a un risque majeur que tous ne puissent pas y accéder. Et du coup, il y a un risque aussi que ceux qui n'ont pas accédé ou qui refusent soient éliminés. Et là, je pense qu'il faut aussi le penser en termes de justice. Le transhumanisme a pour idéal la justice. Mais je crois que c'est vraiment un idéal. Je crois que, mais, et nous, quelque part, on est obligé de pouvoir réfléchir à cette justice. Et donc, ça la nécessite prudence et responsabilité. Et du coup, la réflexion éthique, à mon avis, ne peut se faire qu'en pluridisciplinaire, avec des experts, avec des chercheurs, avec des scientifiques, avec des utilisateurs, avec des philosophes, avec des juristes, vraiment pour avoir des regards croisés, pour essayer de discerner ce qui peut être fait, pour prendre la responsabilité de ce qui s'est fait. Ce qui se fait, alors c'est vrai qu'en France, on a quand même un cadre législatif précis, on a un comité consultatif national d'éthique qui peut donner des avis. On a vraiment un système qui peut contrôler, aussi en Europe, mais comme dit, au-delà, beaucoup de choses peuvent se faire. Quand il y a eu les techniques de clonage, donc c'était il y a presque 20 ans, je me souviens très bien, quelqu'un disait, mais le jour où ça sera fait, si tous les pays l'interdisent, ben, j'irai le faire sur un bateau en interterritorial. Donc finalement, si une technique est possible, comment la cadrer? Donc je voudrais dire que l'amélioration de l'humain, la liberté, l'autodétermination sont vraiment limitées par le mal qu'il ne faut pas faire et par la nécessaire justice, justice au sens d'égalité. Et je crois que là, nous sommes tous responsables, collectivement et individuellement. Voilà, je vous remercie.
Bonjour madame, merci beaucoup. C'est très intéressant tout ça. On se pose énormément de questions après tout ça. Et c'est assez effrayant aussi. L'avenir est assez effrayant, mais assez fascinant en fait. C'est ce qu'on se rend compte de tout après tout. Simplement une petite question. N'existe-t-il pas aujourd'hui, avec les techniques que l'on a, avec l'expérience de l'homme de manière générale, parce qu'on a vu les malfaits de l'eugénisme dans les années précédentes, ne nous permet-il pas aujourd'hui de se mettre en commun vers un cadre général pour ne pas dépasser des limites qui nous semblent à tous indépassables?
Moi, personnellement, je suis persuadée que si une technique est possible, elle se fera parce que quelqu'un paiera pour que ça se fasse. Juste pour vous redonner l'exemple du clonage, donc le clonage reproductif, vous voyez, c'est-à-dire refaire une personne génétiquement identique à la première. Il y a eu bien sûr très rapidement une législation en France et en Europe qui a interdit de le faire. Aux États-Unis, la recherche a été interdite avec des fonds publics. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit, alors, je ne sais plus dans quel pays qu'il avait fait un clone, et en fait, ça s'est révélé faux. Je crois que c'est en Corée, hein, oui, et ça s'est révélé faux. Et du coup, moi, j'ai entendu dire, si toutes les législations refusent, on ira, je crois que ça s'appelle sur un bateau, en zone neutre, non territoriale, et puis c'est le problème. Et je pense, comme dit, notre système législatif est quand même assez prudent. Bien que si on regarde l'évolution des avis du Comité national depuis sa création en 83, sur tout ce qui concerne les questions de début de vie, ça a complètement évolué. Hein. Ça évolue vraiment avec les connaissances scientifiques. Mais je pense que, par exemple, en Chine, il y a des choses qui se feront. Là, donc, comme dit, ça a été un peu dit partout concernant la naissance de ces enfants. Mais en fait, on n'en sait pas grand-chose. On ne sait pas comment ça a été fait. Et du coup, il y a aussi le retour avec, je crois, une inculpation de la personne qui l'a fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comment ils vont? Quel est le cadre? Pour moi, ce n'est pas du tout maîtrisé. Hein.